Ce moment d'étude, nous allons nous retrouver aux Actes chapitre 5, les versets 12 à 42. Donc on a beaucoup de passages à couvrir ce matin. Puis pour ceux qui s'intéressent à faire des questionnaires, comme vous avez fait la semaine passée, donc vous aurez la possibilité de le faire après. Il y a une page recto verso avec des questions de compréhension et aussi de réflexion. Donc, je laisse ça ici si vous en avez besoin ou envie de faire cela. Donc, nous sommes aux Actes chapitre 5. Nous sommes probablement à très peu de temps après le jour de Pentecôte. Donc, l'Esprit Saint est tombé relativement très peu de temps avant ceci. Nous avons l'Église qui continue à grandir. Mais ce que nous avons depuis chapitre 5, chapitre 4, et puis qui ça ira, en tout cas jusqu'au chapitre 8 et suivant, c'est toute la persécution autour de Jérusalem. Et donc la persécution grandissante qui a son origine chez les Juifs incrédules qui n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Et donc, on va voir ici dans ce texte, en commençant avec chapitre 5, le verset 12, que cette opposition est grandissante. Nous nous souvenons qu'il y a Pierre et Jean qui avaient été arrêtés après la guérison du paralytique au temple, et qu'eux, on leur a menacé de ne plus prêcher le Christ. Et bien sûr, puisque cela a eu lieu, ils ont dit ne pas prêcher, donc ils ont dit d'accord, on ne prêchera plus. Et puis c'est la fin de l'histoire, du tout. Ils continuent à prêcher, et non seulement eux, mais les apôtres aussi. Donc nous allons lire au chapitre 5, les versets 12 à 16, comme on a beaucoup de passages à voir. Et c'est quand même un texte qui est compréhensible sans énormément d'explications. J'aimerais pas qu'on quitte cet endroit sans avoir quand même eu un moment dans le texte. Donc on va commencer aux Actes chapitre 5, le verset 12. Est-ce que je peux avoir un volontaire, Michel? Donc 12 à 16, s'il te plaît.
Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres ne se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris.
Voilà, donc ici nous avons Dieu qui continue à travailler à travers ses apôtres. Et si vous regardez au verset 12, malgré le fait que nous sommes à peut-être 5000 hommes qui sont convertis, sans compter les femmes, nous remarquons ici qu'il dit que beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et c'est quand même intéressant, il faut attendre Étienne et Philippe dans les chapitres à suivre avant qu'il y ait d'autres personnes en dehors des douze qui font des miracles. Donc au début, nous voyons que c'était vraiment un pouvoir qui était donné aux apôtres. Ceci, ils avaient déjà reçu, vous vous souvenez, pendant le ministère de Jésus, d'aller dans les villes, de guérir et aussi de chasser les démons. Mais ce que nous remarquons ici, c'est qu'il y a ces prodiges et le peuple, donc, va voir ce qui se passe et ils sont dans l'admiration des apôtres, mais ils disent qu'ils n'osaient pas se rejoindre à eux. Vous avez vu cela dans le texte? Donc, ils sont dans l'admiration, mais ils ne veulent pas se rejoindre d'eux. Alors, le « eux », sans doute, c'est les apôtres. Mais pourquoi ils osaient s'approcher d'eux? Pourquoi ils ne voulaient pas être tout près d'eux? Il se sentait indigne, peut-être. Okay.
Il les craignait,
mais pourquoi ils auraient craigné les apôtres?
Ils arrivaient à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas, peut-être.
Okay. Donc, il y a cette idée de proximité. Il veut mettre les gens dans l'ombre de Pierre, mais il ne veut pas se, se joindre à ces 12-là. Oui.
C'est probablement l'histoire d'Ananias et Saphira.
Voilà. Donc, absolument. Donc, juste avant, nous avons l'histoire d'Ananias et Saphira, où nous nous souvenons qu'il y en a deux dans la présence de Pierre et les apôtres tombent raides morts parce qu'ils ont menti à Dieu et au Saint-Esprit. Et à cause de cela, donc, il y a cette idée qu'on veut être dans la proximité pour avoir ces guérisons, mais il y a tellement de respect et crainte pour qu'on ne veut pas, disons, il y a une séparation qui se fait là, qui est tout à fait naturelle. Juste, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais première activité des jeunes de l'Église dans les actes, c'était d'enterrer les deux morts. Il dit dans le texte de chapitre 5, c'était les jeunes qu'ils ont appelé à enterrer Ananias et Saphira. Donc, ce n'était pas une sortie, ce n'était pas le foot de cet après-midi, c'était l'enterrement de deux membres de l'Église. Donc, voilà. Et quand vous regardez ce qui se passe, il dit, au verset 14, il dit, « Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient. » Et ça, c'est la première fois dans les actes qu'on a des femmes qui sont mentionnées comme des converties. Ce n'est pas pour dire qu'elles n'étaient pas avant, mais avant, c'était que des chiffres. Et ici, on parle des femmes qui sont converties. Nous voyons que ici, nous avons aussi, que le Seigneur augmentait toujours plus le nombre de personnes qui croyaient. Et cela se passait sans doute à travers les miracles et à travers la prédication. Je ne sais pas ce que vous pensez de... quand vous lisez le verset 15, et vous voyez ce qui est là, le verset 15 et 16, qu'est-ce que vous pensez quand vous lisez ces deux passages? Quand on parle de ces guérisons. Okay, donc c'est incroyable. Okay. Quoi d'autre?
L'ordre de Dieu est à l'action.
Okay, donc on voit que Dieu est vraiment à l'action. Combien de fois est-ce que des gens, par exemple, ont mis des malades dans l'ombre de Jésus pour qu'ils soient guéris? Combien de fois? Jamais on a cela. On a quelque chose qui se rapproche un peu. Vous vous souvenez de l'autre, d'une femme qui dit, si seulement je crois. Ouais, que si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, alors là, je serai guéri. Et on est dans cette idée de certitude que ces apôtres sont capables de faire ces œuvres. Et donc, les gens, ils cherchent à tout prix d'être dans l'ombre ou de toucher. On pourrait même parler de superstition un tout petit peu. Ça semble... Oui, un peu, mais on sait qu'avec tout ce qui se passe, il y a l'enseignement qui arrive après. Et puis, le verset 16, il dit, « La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. » Notons bien, « Et tous étaient guéris. » On a la multitude qui vient et puis les gens sont guéris. Aux États-Unis, dans certains endroits, on va avoir un guérisseur qui invite des milliers de personnes à venir et il y a plein de malades. Beaucoup de malades qui viennent et ils sont très peu qui sont guéris. Okay? Ici, on a un autre phénomène totalement incomparable, c'est qu'on n'a pas des stades de gens qui rentrent malades, mais des stades de gens qui rentrent guéris. C'est-à-dire, ici, il y a pas d'échec dans ces guérisons. Et cela, c'est frappant. Et c'est frappant aussi que, notons bien, ils viennent des villes voisines de Jérusalem. Alors, les villes voisines de Jérusalem, c'est quelle région? C'est la Judée. Okay? C'est la Judée. Et vous vous souvenez, dans les Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus a dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. » Okay. Et maintenant, donc, le Judée est en train d'être évangélisé par le travail des apôtres. Voilà, donc, le royaume de Dieu s'installe, Dieu est proclamé le roi, les gens commencent à voir tout ce que Dieu fait, ces signes qui montrent que les bénédictions de Dieu sont arrivées, le pardon, la puissance sur le mal, et l'Église continue à grandir. Vous avez des questions sur ces petits versets? Bon, on va continuer donc avec le verset 17 et à 23. Alors, vous pouvez imaginer que ça suscite la jalousie parmi les dirigeants incrédules. Et donc, voici au verset 17 à 23, tu pourrais lire, s'il te plaît.
Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent en prison, dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en étonnèrent et firent leur rapport en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans.
Voilà, donc ici nous voyons la grande créativité de Dieu en face de l'opposition et la persécution de ces personnes-là. Donc on commence avec les Sadducéens. Alors vous vous souvenez sans doute un peu des Sadducéens. La plupart des prêtres de l'époque étaient des Sadducéens. Ce sont des gens qui prenaient la loi, les premiers cinq livres de Moïse, comme leur base. Ils ne prêtaient pas beaucoup d'attention aux prophètes et aux psaumes, livres historiques non plus. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas aux anges. Très intéressant, ils ne croyaient pas aux anges. Je dis pour une troisième fois, ils ne croyaient pas aux anges. Okay. Et puis, ce sont eux qui ne croyaient pas non plus, comme j'ai dit, pas à la résurrection, donc pas de vie après la mort. Donc, c'est ça leur manière de voir les choses. Et puis, nous voyons, donc, ils veulent vraiment protéger la loi de Dieu. Et ça, c'est le but qu'ils ont. Bon, pas vraiment. Ils disent qu'ils étaient remplis de jalousie. Et comme nous avons vu, ce mot en grec, le mot jalousie, c'est le mot zélos, vous vous souvenez, qui est aussi le mot de zèle. Okay? Donc, le zèle à l'excès devient la jalousie. Dieu veut que nous ayons du zèle pour son œuvre. Mais le moment que notre zèle tombe dans la jalousie, c'est-à-dire de protéger ce que nous avons au détriment de la croissance en Christ, alors à ce moment, ce zèle devient la jalousie. Donc, ils vont prendre les apôtres et ils vont les jeter en prison. Et là, nous avons quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ce sont les 12 qui sont jetés en prison. Nous nous souvenons que c'est avant, c'était que Pierre et Jean qui ont été amenés devant le Sanhédrin. Alors, c'est la prison publique où ils sont. Et puis, les Sadducéens ne croient pas aux anges. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Il y a un ange du Seigneur, dit. Et cet ange du Seigneur, c'est exactement par exemple, celui, l'ange du Seigneur, c'est la même phrase qui est utilisée, par exemple, avec Josué, qui va prendre Jéricho. C'est l'ange du Seigneur qui vient devant lui. C'est le même qui a mené le peuple d'Israël les 40 ans dans le désert. C'est le même ange du Seigneur. C'est la même phrase qui est utilisée. Donc, cet ange du Seigneur vient et ouvre les portes et puis donne un commandement. Et quel est le commandement? Quel est l'ordre?
Allez-y prêcher.
Allez-y et prêcher. Donc, allez-y et prêcher. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Alors, il faut aussi dire que ce mot « ange », c'est simplement le mot pour « messager ». Et donc, il y a des gens qui pensent que c'était un disciple de Christ qui est venu, c'est l'ange qui est venu pendant la nuit. Je ne crois pas. Je crois qu'ici, on a une libération de la prison. Est-ce qu'on aura une deuxième fois une libération d'une prison? Oui, avec Paul et le tremblement de terre, avec Silas, et puis aussi avec Pierre, n'est-ce pas? Et là, nous entrons dans la logique de Dieu, c'est-à-dire sa grandeur et sa créativité. Avec les 12, il va les libérer. Pierre, il va libérer. Paul et Silas, il va les libérer. Jacques, l'apôtre, il ne va pas le libérer. Donc, c'est difficile de comprendre la logique de Dieu. dans ces différents cas-là. Pourquoi il libère les 12? Bon, on dit que bon, c'est au début. Okay? Pourquoi Jacques, mis en prison, il est décapité? Okay? Pierre, après mis en prison, il est libéré. Paul et Silas, à Philippe, sont libérés. Et donc, les apôtres vivaient avec une confiance, jour après jour, que Dieu allait faire le nécessaire avec eux, allait prendre soin d'eux. Même si c'était dans la mort, ils avaient la conviction que Dieu allait prendre soin d'eux. Et ce n'était jamais en ce stade, en ces stades de leur ministère, qu'ils ont dit, nous ferons ce que tu nous demandes si tu nous protèges. Ils ont dit, Dieu, nous ferons toujours ce que tu nous demandes. Nous allons agir avec confiance. Et si cela mène à la libération ou si cela mène à la mort, ils étaient prêts à le suivre. Bon, nous voyons que les gardes vont trouver que la prison est soigneusement fermée, les gardiens le poste devant les portes, mais après l'avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Donc ça, c'est un tout petit peu comique, parce que nous allons maintenant, les Sadducéens, les dirigeants qui vont dire, mais où sont ces apôtres? Bon, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont de nouveau dans les cours du temple, probablement dans le colonnade là que nous avons de Salomon, les portiques de Salomon. Il faut savoir, donc, le temple prend vraiment une petite partie de toute cette grande cour où les gens venaient pour adorer. Et vous avez la cour des nations, la cour des femmes, vous avez la cour d'Israël, et vous avez juste en face du temple, mais qui fait une partie de cour, ce qu'on appelle les portiques de Salomon. C'était des espaces énormes où les gens pouvaient se réunir. Il y avait des colonnades qui allaient tout autour où les gens pouvaient se trouver, des colonnades qu'on appelait les royales aussi, etc. Mais c'est dans ces endroits que l'Église continuait à se réunir et c'est là où vont les apôtres. Alors, lisons un peu plus les versets 24, les 24 à 28. 24 à 28, est-ce que nous avons un autre volontaire? Oui, vas-y. Oui.
J'avais juste une question.
Vas-y.
Tu parles de jalousie. Alors moi, je pense au terme où on dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qui l'a mis en nous. Et tu sais quel terme est utilisé dans ce cas-là?
C'est le même mot.
C'est le même mot.
Mm-hmm.
D'accord.
Mm-hmm.
OK. Donc c'est le traducteur qui décide de le traduire en jalousie ou en zèle selon le contexte du passage.
Oui. Par exemple, le zèle qui est utilisé, par exemple, pour l'église à Corinthe, est traduit comme jalousie.
D'accord. Ouais. Parce que le terme concernant Jésus, où il dit « le zèle de ta maison me dévore
ouais. »,
ça pourrait être aussi traduit « la jalousie
ouais.
de ta maison me dévore ».
Sauf que c'est une citation de l'Ancien Testament, et d'accord. Donc nous avons deux mots différents dans l'hébreu.
Donc là, c'est un terme.
Non, c'est en grec, le mot, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc là, on va utiliser le même mot. Donc zélos peut être traduit comme jalousie ou ça peut être traduit comme zèle.
D'accord. Et là, donc, concernant Dieu, ce n'est pas pris de façon négative.
Non, du tout. Parce que c'est sa jalousie, on dirait, est une... C'est ouais, légitime, ça vient de son amour. Donc... Pendant qu'ici, ça vient d'une soif de pouvoir, d'influence.
Okay. Et tu disais que c'est la même expression qui est utilisée dans l'ange qui conduit le peuple.
C'est l'ange du Seigneur, oui.
L'ange du Seigneur entre l'Ancien et le Nouveau, mais c'est sur deux langues différentes.
Absolument. Mais la phrase qui, par exemple, quand on prenait l'ange du Seigneur et on le traduisait dans le Septante, par exemple, en grec, donc 200 ans avant Jésus, c'est la même phrase. Mais ici, je ne suis pas sûr que ce soit l'ange du Seigneur, okay? Celui qui incarne dans un sens Dieu lui-même. Je crois que c'est simplement pour dire que Dieu est tout derrière cela, mais c'est exactement le même type de phrase qu'on utilise.
D'accord.
Ouais. Est-ce clair? Ça va?
C'est intéressant parce que l'ange du Seigneur, il dit « Annoncez au peuple les paroles de cette vie, et là le mot vie porte majuscule. »
Voilà, ouais. Non, mais t'as raison de souligner, c'est la première fois aussi qu'on utilise, on parle de l'évangile, qu'en étant la vie. nous savons que ça sera la voie aussi. Donc, on a la voie, la vie pour décrire l'évangile. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en majuscule. Mais bien sûr, en grec, ils n'ont pas mis en majuscule parce que tout était en majuscule à l'époque. Donc, ouais. De bonnes questions. Est-ce qu'il y a autre chose? Je dis que c'est de bonnes questions parce que ça veut dire que des gens écoutent. Donc, ça c'est une bonne chose. Bon, 24 à 28, est-ce que François, tu vas lire pour nous?
Lorsque ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandèrent ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un leur annonçait : Voici, les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant et les gardes partirent et les emmenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
Voilà. Alors, donc, il faut savoir que Luc écrit cela quelques 20 ans après. Il est en train de décrire des choses qu'on a vécues longtemps avant, et sans doute il a énormément réfléchi à ces choses, et puis Dieu est à l'œuvre en lui par l'Esprit, et je crois qu'il a dû quand même sourire un tout petit peu quand il écrivait ce texte, parce que qu'est-ce que nous avons, you know, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, on leur a interdit de parler, tout ça. Et puis ils sont dans le temple en train de prêcher. Et puis il y a des choses qui sont quand même assez drôles, je crois en tout cas. Le verset 26, il dit que le commandant des gardes les amenèrent sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alors qui a peur ici? Ouais, ce sont les dirigeants qui ont peur. Et les apôtres qui avaient été menacés, est-ce qu'ils vivent dans la peur? Non, ils vivent dans la fidélité. Et ceci est remarquable. Notons bien, si vous lisez avant, ils ont dit ils les ont saisis et les ont jetés en prison. Okay? Maintenant, est-ce qu'ils les saisissent et les jettent en prison? Totalement, ils changent de comportement. Ce que nous remarquons, c'est que c'est presque, s'il vous plaît, est-ce que vous allez venir, on vous convoque à arriver. Ce n'est pas vraiment cela, ils ont quand même, c'est quand même le commandement des gardes qui vient, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on voit que c'est quand même un peu drôle. Et puis, le verset 28, nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce non là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et les apôtres ont dit, oh ben je suis désolé, on a oublié, oh mince alors, on aurait dû y penser. Non, du tout, ils vont dire après, il faut obéir à Dieu et pas aux hommes. Et ça devient leur devise. C'est de nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux incorporer cette phrase dans ma propre vie? Qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux autres hommes. Comment est-ce que notre vie serait différente si nous étions aussi attentifs à cela?
Mais quand même incroyable, parce qu'il a dit à ce nom-là, donc c'était tellement craintif qu'il ne se met plus pour le nom de Christ.
Voilà, absolument. Nous nous souvenons qu'au chapitre 4, le verset 12, c'est Pierre qui dit... c'est seulement au nom de Jésus que les hommes peuvent être sauvés. Et il va dire, ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, c'est le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Donc ils osent pas dire le mot Jésus. Et il semble aussi que cette pratique donc, est devenue de plus en plus courante, que les Juifs non croyants en Jésus évitaient d'utiliser le nom de Jésus avec le temps. Parce qu'ils voyaient... il y avait cette jalousie ou même cette haine qui sont là. Est-ce que je peux juste vous dire une dernière chose? Il dit, et vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ça vous dit, fait penser à quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Que ce sang retombe sur
notre tête. Sur notre tête et la tête de nos enfants. Okay? Donc, maintenant, donc, oui, il veut mettre Jésus à mort. Vous voyez que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Puis maintenant, ils disent, mais maintenant, vous essayez de nous rendre responsables de cela. Donc, voilà ce que nous avons. Alors, voyons ce que les apôtres vont dire, Pierre, d'abord. Alors, les versets 29 à 32. François, tu peux continuer à lire juste cette partie-là? 29 à 32. Bon, il y a des choses très pratiques et puis il y a des choses théologiques très, très importantes ici. Première chose, est-ce que vous voyez ce que les hommes ont fait dans cette histoire de Jésus? Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont cloué Jésus au bois, d'accord? Et c'est très intéressant cette phrase qui est utilisée parce que ce sont des Juifs qui parlent avec des Juifs. Et clouer quelqu'un au bois va le faire penser à un passage de Deutéronome qui dit que maudit celui qui est pendu sur le bois. Okay? Maudit par Dieu, hein, celui qui est pendu sur le bois. C'est Deutéronome 21, le verset 23. Et c'est pour cela qu'il dit, vous avez donc maudit ce Jésus. Vous avez fait que Dieu maudisse ce Jésus. Vous l'avez cloué sur un bois. Juste, vous comprenez ce que je veux dire, cloué sur le bois? Parce que ce qui se passait à l'époque, on prenait les ennemis, souvent on les décapitait, on mettait la tête sur un poteau, okay, et puis on clouait sur les murs ou sur un arbre le cadavre. Et le cadavre restait là jusqu'à ce que les animaux le mangent, etc. Okay? Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament où David met à mort 7 enfants descendants de Saül, et il y a une femme qui protège ses 2 fils qui ont été tués. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est assez terrible comme histoire. Mais c'était quelque chose qu'on faisait pour maudire. Okay? Et ça voulait dire que Dieu a dit, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas cela parce qu'on maudit la terre en faisant cela. Il fallait toujours descendre les cadavres à la fin de la journée et puis les enterrer. Mais eux, ils ont laissé Jésus sur le bois, donc ils vont penser à ce passage de Deutéronome, que Dieu maudit. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Vous avez vu les 3 choses? Dieu a fait quoi?
Il a ressuscité.
Okay. Quoi d'autre?
Il a
amené au ciel, donc, à sa droite, donc il est le roi au-dessus de toutes choses. Et puis la dernière chose, c'est qu'il a donné la repentance à Israël. C'est Jésus qui a fait cela. Il a donné la repentance et le pardon à Israël. Donc, voilà ce que nous remarquons. Ça, c'est la prédication la plus courte de Pierre dans les Actes. Okay? C'est 2 versets, mais 3 versets, mais ça dit tout ce qu'il faut dire. Notons bien qu'il dit, nous sommes témoins de ces choses. Ça nous fait penser à Jésus qui dit, vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et si on obéit à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne son esprit. Okay? Il verse son esprit sur nous. Notons bien, si vous voulez l'esprit de Dieu en vous, obéir à Dieu en Christ Jésus. Okay? Nous avons vu cela aux Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est pour ceux qui étaient baptisés en Jésus, qui se sont repentis et ont été baptisés, c'est pour ceux qui mettent leur confiance et qui obéissent à Jésus. Donc, il ne faut pas envoyer de l'argent à quelqu'un pour avoir l'esprit. Il ne faut pas être dans une réunion spécifique pour avoir l'esprit. Il faut obéir à notre Sauveur. Vous avez des choses à dire là-dessus? Bon, on arrive à 33 et suivant, et je vais vite lire cela. Donc, en les entendant, ils étaient exaspérés. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils étaient coupés, c'est aussi une phrase qu'on utilise plus tôt. Ils étaient exaspérés, ils auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien, alors maintenant on a les pharisiens, avant c'était les sadducéens, maintenant c'est les pharisiens qui croient aux anges, qui croient à la résurrection, qui prennent tout l'Ancien Testament. Donc un pharisien de nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes, car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 ans. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui, se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. » Et il entraîna du monde à la suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Voilà, donc Gamaliel est connu, il est quelqu'un qui est dans les écrits rabbiniques, nous savons que cette personne existait, il était le petit-fils d'un rabbin qui s'appelait Hillel, qui était l'un des deux grands rabbins qui ont vraiment formé toute la théologie au temps de Jésus. Lui, il était aussi celui qui a instruit l'apôtre Paul, voilà, avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Et donc, vous voyez, docteur de la loi, estimé pharisien, c'est la première fois qu'on a un pharisien mentionné dans les actes, et puis il donne l'ordre de l'écarter et il va partager sa sagesse. Alors, juste pour vous dire ici, je ne crois pas ici que Gamaliel est en train de donner un enseignement inspiré de Dieu à mettre en route dans chaque circonstance. Il n'est pas en train de dire, voici, si vous le trouvez devant un enseignement, vous n'êtes pas sûr, donc laissez les choses tranquilles sans essayer d'intervenir. Ce que nous remarquons, c'est que comme Dieu a utilisé un ange pour délivrer les apôtres de la prison, il utilise une autre personne pour les délivrer de la mort ici devant le Sanhédrin. Et donc, ce Gamaliel dit simplement, il y a d'autres personnes qui ont essayé d'être le Christ, d'être le Messie. Il y avait un certain Teudas. On ne sait pas qui est Teudas. Il y a, dans les livres historiques, il n'y a rien là-dessus. Il y a un Teudas qui a existé 10 ans après cet événement, mais ce n'est pas le même, nous pouvons en être sûrs. Il y a un Judas qui est ici, et lui, il y a Joseph qui a écrit et qui a parlé de lui. Donc on sait qu'il existait, on sait comment il a vécu et tout. Donc il y a un dans les écrits en dehors de la Bible, des choses qui montrent que cette personne a vraiment existé. Mais quand ces deux personnes étaient tuées, qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement? Le moment a terminé. Bon, ceux de Judas qui est là, Judas, ses adhérents se sont après ralliés avec les Zélotes. Et les Zélotes, donc, étaient ceux qui ont rebellé contre Rome après. Mais sinon, le mouvement a disparu et ils n'étaient pas là. Donc, son conseil, c'est qu'on ne va pas punir, on ne va pas tuer ces hommes, parce que s'ils viennent de Dieu, et pour un pharisien, c'est tout à fait possible, s'ils viennent de Dieu, alors on ne va pas s'opposer à Dieu. Okay? Et s'ils ne viennent pas de Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec le mouvement? Ça va disparaître. Et donc, maintenant, nous sommes 1,6 milliard de personnes qui portent le nom de Jésus d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc juste pour regarder comment ça fonctionne. Alors, voilà la situation. J'aime bien au verset 39. « Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Alors, quand nous sommes devant le faux enseignement et des gens qui disent des choses qui sont fausses concernant Dieu ou concernant le Christ, on ne va pas persécuter les gens, on est d'accord. Mais on va argumenter contre, on va prouver, on va on va quand même aller avec beaucoup de zèle pour essayer de contredire et d'enseigner ce que la Bible enseigne. Okay. Gamaliel est en train de dire, mais on ne va pas les mettre à mort, parce que ce n'est pas à nous de faire cela avec ces hommes. Et il avait raison. Gamaliel, il n'est pas un chrétien ici. Il est un homme sage qui ne veut pas aller contre Dieu. Et ça nous donne un peu l'idée que Paul avait dans sa tête. Gamaliel a dû dire à Paul, tout ce que tu fais quand tu étais seul, tout ce que tu fais, fais-le avec une bonne conscience en suivant la parole de Dieu. Attention à ces choses-là. Par contre, Saul n'a pas repris cette partie de cet enseignement, c'est-à-dire ne pas tuer les chrétiens. Voilà, donc tous se rangèrent de son avis, et puis, regardant le verset 40, et ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges. Alors, probablement ce sont les fameux 40 coups moins 1, donc 39 fois qu'ils sont battus, et c'est pas sympathique, et c'est pas comme certains parmi vous ont fait avec vos petits quand ils étaient quand tapés pour qu'ils apprennent quelque chose. C'était pour les punir, c'était de la torture, il les torture. L'idée, c'est de les faire souffrir autant possible sans les tuer. Le verset 41, « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, puis on est frappé par ces mots, n'est-ce pas ? Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. » Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je peux juste vous dire une petite conclusion. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Bon, quelle est leur devise?
Oui.
On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et on peut nous menacer de la mort, ils disent, on peut prendre notre vie, on peut prendre la peau de notre dos en nous frappant. On peut nous fouetter, on peut nous interdire, on peut nous jeter en prison, mais nous allons faire ce que Dieu demande de nous. Ça me faisait penser, parce que j'ai préparé ce texte quand vous étiez en train de chanter l'autre jour. J'avais ce texte dans ma tête et je me suis demandé, puis j'ai posé la question à quelques jeunes, si un policier était passé, il a dit, bon, vous n'avez pas le droit de chanter. Et puis j'ai dit aux jeunes, qu'est-ce que vous aurez fait? Et puis ils ont dit, bon, on aurait dit d'accord, puis on aurait repris les choses, et puis on aurait montré la feuille qui disait qu'on peut chanter. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si quelqu'un serait passé et dire, non, vous n'avez pas le droit de faire cela, je vous interdis, et si vous continuez, je vais vous citer. Alors, évidemment, respecter les lois qui sont là, c'est ce que nous sommes appelés à faire. En même temps, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes peuvent nous mettre dans le pétrin, dans pas mal de situations, dans des situations embarrassantes. Mais les disciples, ils n'ont pas eu de problème. L'Église, après cela, est vainqueur. Vous avez vu? L'Église est fidèle et qu'est-ce qui se passe? Dieu continue à bénir son Église. L'Église continue à grandir. L'Église est fidèle, même si ses fidèles sont... L'Église est vainqueur, même si ses fidèles sont mis en mort. L'Église est vainqueur, même s'ils sont jetés en prison. L'Église est vainqueur, même si les dirigeants sont contre eux et font tout ce qu'ils peuvent pour le détruire. Et donc, c'est ceci que nous finissons avec ces paroles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. Juste pour l'épilogue qui est là. Donc, les apôtres se retirent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. On est reconnaissant pour leur fidélité, n'est-ce pas? Voilà. Si vous avez des questions et tout, vous pouvez me les poser après. Je suis là, puis on a une dizaine de